voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 7 combattants des forces démocratiques syriennes ont été tués en ce début de semaine dans le nord de la Syrie par le groupe État islamique. Preuve que Daesh n'y est pas tout à fait vaincu. Notre envoyé spécial se trouve à Baghouz, un bastion repris ce week-end par l'Alliance arabo-kurde. Témoignage de combattants à suivre.
Et puis nous analyserons ensuite la demande du chef de l'armée algérienne. Il veut que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte au pouvoir. Il faut pour cela enclencher l'article 102 de la Constitution.
Theresa May sera-t-elle encore première ministre ce soir? D'après un journaliste du Sun, elle pourrait annoncer aujourd'hui sa démission pour, en contrepartie, faire voter son accord sur le Brexit. Ce mercredi également, les députés votent sur différentes options. Explication dans un instant.
Et puis une représentante des fonctionnaires en France nous dira pourquoi, selon elle, la réforme de la fonction publique tend à aligner leur statut sur celui des salariés du privé. Le projet de loi est présenté en Conseil des ministres ce matin.
Qui sera le plus écologiste? C'est la bataille qui va marquer la campagne des élections européennes les semaines qui viennent. Le thème aussi du billet politique de Frédéric Seitz, nous le retrouverons après ce journal. Et nous partons donc pour commencer cette édition en Syrie, dans la ville de Baghouz, dans l'est du pays, à la frontière irakienne. Après des mois de combats, l'Alliance arabo-kurde annonçait samedi avoir conquis ce territoire, dernier bastion du groupe État islamique en Syrie. Notre envoyé spécial, Omar Ouaman, a pu entrer dans la ville, constater que les combats avaient bel et bien cessé, mais pas les bombardements des avions de la coalition qui traquent encore les derniers combattants. Voici son reportage.
Les armes se sont tues sur ce bout de terre d'à peine 1 km² labouré par les tranchées au milieu de tentes de fortune et de véhicules calcinés ou à l'abandon. Mohamed, un combattant arabe de la ville de Shadadi. C'est ici que les djihadistes de Daesh ont fini. Ils vivaient à même le sol, avec leurs femmes et enfants. Ils étaient des milliers. Acculés, les combattants de Daesh et leurs familles ont fait le choix de la reddition, au lieu de tenter de fuir en traversant le fleuve, l'Euphrate, qui borde ce camp informel. Pour Ali, un combattant de l'Alliance arabo-kurde, ce choix aurait été le pire, car ce sont les forces du régime de Bachar el-Assad qui contrôlent l'autre rive. Le régime, il les aurait tous tués, c'est sûr. Il en aurait épargné aucun, j'en suis convaincu à 100%. Le bourdonnement des avions de la coalition vient rappeler que le dernier réduit du groupe État islamique n'est pas totalement tombé, comme en témoigne cette frappe suivie d'une colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Moussa, à l'arrière d'un pick-up, se veut rassurant. Ils se cachent dans les tunnels, c'est pour ça qu'ils bombardent. Ils ne sont plus très nombreux, ils sont terrés. Ces irréductibles de Daesh veulent prolonger les dernières heures de leur califat qui ne se résume plus qu'à quelques tunnels.
Omar Ouaman depuis Baghouz pour France Culture. La Syrie encore, qui a demandé hier soir l'organisation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion consacrée au plateau du Golan. Damas revendique ce territoire annexé par Israël. La semaine dernière, le président américain Donald Trump avait ravivé la colère des Syriens en reconnaissant la souveraineté d'Israël sur ce plateau. Ces prochains jours marqueront-ils la fin de l'ère Bouteflika en Algérie après plus d'un mois de contestation populaire? Hier en tout cas, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, a demandé à ce que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte au pouvoir et que la présidence soit donc vacante. Voici un extrait de la déclaration de cet homme, considéré comme l'un des personnages les plus puissants du pouvoir algérien.
Pour sortir de cette crise immédiatement, une solution existe dans notre constitution. C'est la seule possible pour garantir une stabilité politique durable. Et je pense construire une sortie de crise qui réponde à l'appel du peuple. Cette solution est stipulée par la Constitution dans son article 102.
Bonjour Thivo Kavayes.
Bonjour Clara.
Quel est cet article 102 de la Constitution auquel le général Salah fait référence?
L'article 102 de la Constitution révisée de 2016. Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel propose au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Concrètement, il faut que ce Conseil constitutionnel, alors attention, hein, il est présidé par un homme, Tayeb Belaïz, proche d'Abdelaziz Bouteflika. Il faut donc que ce Conseil se réunisse puis saisisse vaste parlement, les deux chambres, Conseil de la Nation, c'est le Sénat français, et l'Assemblée populaire nationale, doivent voter et obtenir la majorité des deux tiers pour que l'empêchement soit adopté. L'intérim de la présidence reviendrait alors au président du Sénat algérien. L'actuel s'appelle Abdelkader Ben Salah. Il a 75 ans. 45 jours ensuite pour que le président mis de côté soit confirmé inapte au pouvoir. Et si tel est le cas, une élection présidentielle doit être organisée sous les 90 jours suivants. Mais avant cela, il faut donc que le Conseil constitutionnel se prononce. Une réunion aurait eu lieu hier soir. Pas de fuite jusqu'à présent. Mais il n'est obligé de rien, ce Conseil. La déclaration du général Salah n'est qu'une proposition, Clara.
Et au lendemain de cette proposition, justement, Thibault, ce matin, quel est le sentiment en Algérie?
Les Algériens sont sceptiques. On a beaucoup entendu depuis hier le mot coup d'État. L'exemple égyptien est dans toutes les têtes avec l'armée au pouvoir. L'opposition utilise des mots tels que piège, manœuvre machiavélique de la part de l'armée. Opposition qui estime que l'application de l'article 102, de toute façon, ne suffira pas. Car les Algériens qui sortent en masse depuis plus d'un mois maintenant demandent le départ de tout un système. Et la mesure d'empêchement annule de fait le Conseil national et les réformes qui avaient été proposées pour répondre à cette crise annulent également l'idée de mettre en place une assemblée constituante. De plus, si elle met cette procédure, le président à l'écart, elle préserve les institutions de la République jusqu'aux prochaines élections avec le gouvernement actuel qui resterait donc en place plusieurs mois encore alors que les Algériens espéraient voter pour un nouveau président le 18 avril prochain.
Merci beaucoup Thibaut Cavaillès pour ces précisions ce matin. Les députés britanniques prennent la main sur le Brexit et font en guerre un peu plus la première ministre Theresa May. Ils doivent voter aujourd'hui sur ce Brexit. L'idée est de trouver un plan B à l'accord de Theresa May en ouvrant, Louise Baudet, la boîte à idées.
Au moins 8 scénarios vont être discutés puis votés dans la soirée. Du bon vieux no deal, déjà rejeté à 2 reprises par la majorité des députés, à l'abandon pur et simple du Brexit, en passant par un accord de libre-échange, une union douanière ou encore le maintien d'un lien fort avec le marché unique, un arc-en-ciel de propositions du divorce au statu quo, sans oublier l'hypothèse d'un second référendum. Alors peu de chance qu'une majorité se dégage dès ce soir. Un nouveau vote est prévu lundi. Et si par extraordinaire un consensus s'était trouvé, rien n'oblige Theresa May à le valider. Nouveau bras de fer en vue donc, à moins que la première ministre ne démissionne, elle y serait prête. Afin de convaincre les Brexiteurs de voter enfin son accord de sortie, ce deal-là avec une partie de sa majorité pourrait être acté en fin de journée et le texte négocié avec l'Union européenne soumis une troisième fois demain aux députés.
Theresa May prête à démissionner, c'est effectivement ce que l'on peut lire dans le tabloïd The Sun, une démission en échange d'un accord sur une sortie encadrée du Royaume-Uni de l'Union européenne. Toujours dans le flou, les entreprises britanniques, elles ralentissent la croissance du pays qui abaisse largement ses prévisions. Plus à l'est, l'Allemagne aussi montre quelques signes de fragilité économique. Le pays flirte même avec la récession. Nous devrions connaître aujourd'hui le baromètre de la conjoncture allemande, jusque la première économie européenne. L'information pourrait avoir un impact sur tout le continent. Notre correspondant outre-Rhin, Ludovic Piétenu, nous explique que l'Allemagne pâtit en fait des tensions commerciales mondiales.
Ce qui traditionnellement tire vers le haut la croissance allemande, ce sont ses exportations. Pour comprendre le problème, il suffit de regarder la liste des premiers pays destinataires. Hormis son voisin la France, on trouve la Grande-Bretagne en pleine période d'incertitude et qui inquiète les entrepreneurs allemands, la Chine dont la croissance ralentit fortement et les États-Unis où la politique protectionniste de Trump cause beaucoup de tort à l'industrie allemande. Hélène Keller est économiste à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg.
Le marché américain, c'est la première destination des voitures allemandes. Donc là, un véritable risque qui peut avoir un véritable effet sur la croissance allemande.
Ces exportations représentent près de la moitié de la richesse créée chaque année en Allemagne. Pour le reste, les Allemands doivent compter sur eux-mêmes et sur ce point, ça va plutôt bien, dit Hélène Keller.
La demande intérieure en Allemagne reste solide. Avec une situation proche du plein emploi, les salaires ont pas mal augmenté ces dernières années. Donc, possibilité de consommer.
Néanmoins, le gouvernement allemand ne table plus que sur 0,8% de croissance pour cette année. Il est fini le temps où l'Allemagne jouait le rôle de locomotive dans la zone euro. Revoici le spectre de l'homme malade. Comme il y a 20 ans, le pays pourrait redevenir un frein à la croissance européenne.
Et pendant ce temps, en France, l'économie, au contraire, se porte un petit peu mieux. L'INSEE, hier, a légèrement revu ses chiffres à la hausse, à 1,6% de croissance pour l'année 2018, contre 1,5% un an plus tôt.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le projet de loi pour réformer la fonction publique sera présenté ce matin en Conseil des ministres.
Le gouvernement veut, grâce à ce texte, rendre la fonction publique plus attractive et plus réactive, en pointant par exemple du doigt les fonctionnaires qui travaillent moins de 35 heures. Selon la Cour des comptes, il y en a en France près de 300 000. La réforme s'inscrit dans un objectif de suppression de postes d'ici à 2022, 120 000 suppressions sur les 5,5 millions d'agents. Le texte prévoit également un recours accru aux contractuels. Il est rejeté par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires qui dénoncent une réforme contraire à l'intérêt général, contraire surtout à la philosophie de ce que doit être la fonction publique, qui n'est pas la même que le secteur privé. La représentante de la FSU, Bernadette Groison, l'explique au micro de Catherine Pétillon.
On est très vigilant à ce que les services qui sont rendus par les fonctionnaires ne puissent pas être sous pression, soit directe d'un employeur territorial, soit bien sûr de lobbying ou de secteur privé. C'est ce que permet par exemple un recrutement par concours. Ces grands principes garantissent une forme d'équité et d'égalité entre les usagers, et ça sur l'ensemble du territoire. Or, ce projet de loi, en enlevant tous ces filtres d'indépendance, de neutralité, en recourant massivement au recrutement par contrat, en faisant disparaître tous les organismes consultatifs qui permettent aux organisations syndicales de jouer leur rôle de partenaire social, toutes ces modifications vont de fait amoindrir l'égalité et l'indépendance qui est due aux usagers. Et c'est un projet de loi qui va aller très loin dans la remise en cause des services publics, même si nous disons à la FSU que les services publics d'aujourd'hui doivent être bien sûr améliorés et doivent évoluer. Mais ce projet de loi, il ne fait pas ça. Il vise simplement à ce qu'il y ait moins de fonctions publiques et moins de services publics.
Les syndicats de fonctionnaires appellent aujourd'hui à des rassemblements un peu partout en France. Une offre de dernière minute entretient l'espoir pour la papeterie Arjo-Wiggins. Ses trois usines sont menacées de fermeture, mais le tribunal de Nanterre reporte sa décision de trois jours, et ce pour sauver le millier d'emplois menacés. Dans le Nord, à Saint-Saulve, ce sont les salariés de l'acierie Ascoval qui devraient obtenir aujourd'hui un sursis au tribunal. Trois nouvelles offres de reprise ont été déposées dans ce dossier emblématique de la désindustrialisation en France. Quand la rumeur pousse au crime, dans la nuit de lundi à mardi, des dizaines de Roms ont été pris pour cible en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, leur camionnette incendiée, en cause d'une rumeur infondée sur des enfants enlevés par une camionnette pour un trafic d'organes ou de prostitution. Des habitants ont pris peur, ils se sont donc attaqués à des personnes de la communauté Rom, bilan une vingtaine d'interpellations. Et la peur qui s'installe maintenant dans plusieurs camps, à Pantin et à Bobigny, Laetitia Evelyne.
Ils sont une petite dizaine le long de la route de Paris à Bobigny, assis par terre ou sur une haie. Ils multiplient les allers-retours à leur voiture. Un peu plus loin, les carcasses calcinées de deux camionnettes.
Ce soir, je ne vais pas rester ici parce qu'il est peut-être arrivé en compétition.
Cet homme vient de l'expliquer. Il n'a pas dormi ici hier soir. À ses côtés, une femme s'énerve.
Quelqu'un, je voulais parler des enfants, j'ai comme ça.
Et c'est ce qui revient, on leur a parlé d'enfants, mais ils n'ont pas compris les accusations, pas compris cette rumeur. Ils ne savent pas de quoi ils sont accusés. À quelques kilomètres au bord du périphérique, Nicolas y fait la traduction de mes questions. Dans ce campement, ils n'étaient pas au courant, mais commencent sérieusement à s'inquiéter.
Nous, on est des enfants aussi quand même, on ne fait rien, c'est très dur pour nous. Et à cause de quoi, je ne sais pas ça.
Eux aussi ont préféré lever le camp. Une jeune fille lance même qu'elle veut retourner en Roumanie.
Un reportage de Laetitia Evelyne à France Bleu Paris pour France Culture. Le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, a lui lancé hier un appel au calme autour de cette légende urbaine. Écoutez-le.
Je dirais que la majorité sont plutôt rassurés par le fait que le maire, la commissaire de police, puisque c'est avec elle que je suis en contact, il y avait une principale de collège aussi, puisqu'on disait que c'était aux abords d'un collège que ça s'est passé, que tout le monde a le même discours en disant il n'y a aucun fait qui correspond à ça. En revanche, on a des gens qui disent mais ils se couvrent les uns les autres, les institutions nous mentent, donc il y a un complotisme en version locale qui continue d'être alimenté sur les réseaux sociaux, avec uniquement des gens qui se cachent derrière des pseudos et qu'on n'arrive pas à identifier. Je crois que c'est plutôt bien que la presse s'en en parle parce que ça permet de faire passer le message. Il n'y a aucun fait avéré qui corresponde de près ou de loin à un des enlèvements d'enfants. Et si ça continue derrière, on ira à la rencontre des habitants en faisant des réunions publiques. Parce que quand on voit les gens physiquement, ça n'a pas le même effet que d'être derrière son écran et à pouvoir raconter un peu n'importe quoi.
Et des renforts de police sont déjà prévus sur place, notamment à Sarcelles. Notons enfin ce nouvel assaut des sénateurs contre l'exécutif. Ils ont adopté hier un amendement contre les 80 km/h obligatoires sur les routes secondaires. Le texte permet aux présidents des départements et aux préfets d'annuler, s'ils le souhaitent, cette limitation. L'amendement doit encore passer devant l'Assemblée nationale au mois de juillet prochain. Météo France prévoit quelques nuages bas sur le nord de la France. Ce mercredi est toujours un grand soleil au sud de la Loire, sous des températures plutôt douces. 9 degrés ce matin à Strasbourg, Paris et Amiens. Comptez 10 degrés à Nantes et Lyon, 15 degrés de Perpignan jusqu'à Nice.